École normale supérieure, savoir en multimédia.
Bon, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à voir Hannah Arendt in vivo, si j'ose dire. Moi, ça m'a beaucoup rajeuni parce que j'avais vu cette projection, j'ose pas dire il y a combien d'années, mais sûrement au moins 30, au centre américain de la rue du Dragon à l'époque. Et je ne sais plus si c'était à l'initiative de Paul Ricoeur, mais en tous les cas, il était là. Donc, c'est très émouvant de revoir ça aujourd'hui. Et c'est aussi émouvant parce que c'est le premier texte d'Hannah Arendt que j'ai jamais traduit. Seule demeure la langue maternelle. Je l'avais découvert en 1972 par hasard lors d'un voyage à Munich. Ce texte m'avait bouleversée pour des raisons aussi biographiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et je l'avais traduit immédiatement et gardé dans un tiroir jusqu'à ce que les choses se précisent et qu'un numéro d'esprit se construise dans lequel finalement cette traduction qui aurait pu rester dans mon tiroir a été publiée. Bien. Alors, je suis chargée aujourd'hui donc de vous présenter ma traduction des écrits juifs. C'est le 5e volume d'Hannah Arendt que je traduis. J'ai intitulé cette présentation « Quand croire, c'est faire ». Et je vais d'abord vous préciser en quel sens peut-être ce titre écrit juif, donc des écrits juifs, mais en quel sens. Le titre écrit juif n'est pas dû à Hannah Arendt, mais aux éditeurs américains du volume, Jérôme Cohn, qui fut son dernier assistant et qui dirige le Hannah Arendt Center de New York, et Ron Feldman, auteur de The Diaspora, Jewish Identity and Politics in the Modern Age. Dans ses souvenirs, Irine Rungen, Hans Jonas qualifiait sa vieille amie d'âme Haaretz, ignorant tout du judaïsme, et jusqu'à la Haggadah de Pessah. La remarque est quelque peu exagérée et d'ailleurs démentie en ce qui concerne le rituel de la Pâque par l'article d'Hannah Arendt en 1942, Moïse ou Washington, pardon, où elle en appelle précisément à se remémorer cette légende fondatrice de la liberté de la différence entre liberté et esclavage. Il n'en reste pas moins qu'à quelques allusions près, les connaissances d'Arendt en matière de judaïsme ne remontent pas au-delà du XIXe siècle et qu'elle connaissait mieux la tradition chrétienne que la tradition juive, puisqu'elle avait suivi, vous l'avez entendu, à Marbourg, un séminaire du théologien protestant Rudolf Bultmann sur le Nouveau Testament, en compagnie d'ailleurs de Hans Jonas, et qu'elle effectue en outre sa thèse sur le concept d'amour chez saint Augustin sous la direction de Karl Jaspers. Sa biographe américaine, Elisabeth Jungbrühl, dont les éditions Fayard rééditent le livre, rappelle toutefois qu'elle accompagnait ses grands-parents à la synagogue, parfois, et qu'elle avait reçu quelques leçons d'un rabbin réformé de Königsberg. Bon, si bien qu'on peut plus ou moins ajouter foi à ce que dit Hannah Arendt dans le film concernant le fait qu'elle n'ait jamais entendu le mot juif prononcé chez elle. Quand on est à Königsberg et qu'on va plutôt à la synagogue qu'au temple protestant du coin, on doit quand même peut-être se poser une question et entendre proférer le mot juif et pas simplement sale juive, sale petite juive au lycée. Bon, enfin, peu importe d'ailleurs. Donc ce rabbin, elle était assez insolente quand elle était enfant. Et l'histoire veut qu'elle ait provoqué un jour ce rabbin qui l'enseignait en lui disant « Vous savez, j'ai perdu la foi. » Et le rabbin, qui était un sage, lui rétorqua alors « Mais qui te la demande ?» L'anecdote commentée par Emmanuel Lévinas illustrerait ce que signifie être juif lorsqu'on n'est pas lié à la religion. Je cite Lévinas, c'est dans « À l'heure des nations ». Ce qui importe, ce n'est pas la foi, c'est le faire. C'est pourquoi, contrairement à son héroïne, Raël Varnhagen, dont elle écrivit la biographie, Hannah Arendt, loin de renier son donné de juive, eut à cœur, ainsi qu'elle l'écrit dans Conditions de l'homme moderne, je cite, « d'actualiser le pur donné passif de son être, non pas afin de le changer, mais afin de l'exprimer et d'appeler à exister pleinement ce qu'il lui faudrait de toute manière supporter passivement. » Le titre écrit juif est néanmoins tout à fait justifié, dans la mesure où tous ces articles abordent les affaires juives sous leur angle politique. C'est là un fait assez remarquable, puisqu'ainsi qu'Anna Arendt le confie à Gershom Scholem en 1963, dans sa jeunesse, elle ne s'intéressait ni à l'histoire ni à la politique. Hannah Arendt date donc cette prise de conscience politique de la nuit du 27 au 28 février 1933, jour de l'incendie du Reichstag, et dès lors, le problème juif était devenu son propre problème, un problème politique, purement politique, prend-elle soin de préciser. Déterminée à émigrer, elle voulut néanmoins faire quelque chose, comme elle dit dans l'entretien, en tous les cas dans la version écrite, avant son départ d'Allemagne, et accepta la mission illégale que lui confia Kurt Blumenfeld, celui qu'elle appelle son mentor en politique, ce qui la conduisit à prendre la route de l'exil, puisqu'elle fut arrêtée, interrogée par la Gestapo dans le cadre de cette mission, et qu'elle n'a pas demandé son reste, elle est partie. Ses écrits, qui s'échelonnent sur 4 décennies, nous montrent donc ce que Hannah Arendt a fait concrètement pour le peuple juif dont elle revendique l'appartenance. Comment elle s'est organisée dans l'action, la troisième catégorie de la vita activa, la seule qui fasse accéder les hommes à leur humanité spécifique, ainsi qu'elle l'affirme. Ils interrogent l'identité juive, retracent la genèse de l'antisémitisme et l'échec de l'assimilation des juifs en Allemagne, tirent les conséquences de la domination nazie et font revivre les débats internes au sein du sionisme. Enfin, ils apportent de nouvelles pièces à la controverse engendrée par la publication d'Eichmann à Jérusalem en 1963. Je vais vous expliquer un petit peu la composition de ce volume que Barbara Cassin et Alain Badiou accueillent dans leur collection Ouverture. Alors, ce volume des écrits juifs est le 4e volume publié des œuvres posthumes de Hannah Arendt en cours d'édition aux États-Unis. 2 ont été déjà traduits en français, La philosophie de l'existence et autres essais, et Responsabilité et jugement. Le 3e s'intitule The Promise of Politics et n'est pas encore intégralement disponible en français, puisque seuls les fragments intitulés Qu'est-ce que la politique ont été publiés. Ce volume, donc des écrits juifs, regroupe une centaine d'articles et d'essais de longueur variable, dont les deux tiers sont inédits en français, voire totalement inédits. L'autre tiers regroupe des articles qui avaient déjà été traduits en français, soit par moi, soit par d'autres traducteurs, par exemple dans les volumes de la tradition cachée et Auschwitz et Jérusalem, volumes aujourd'hui épuisés, mais aussi dans Penser l'événement. Tous ces articles ont été révisés, retraduits au besoin à partir de leur langue d'origine. Il y a 20 ou 30 ans, on ne savait pas encore très bien, ou les connaissances étaient moins sûres que maintenant quant à la langue d'origine, donc soit l'anglais, soit l'allemand. Et ils sont accompagnés d'un appareil critique à la faveur des nouvelles connaissances apportées sur l'œuvre d'Arendt ces 20 dernières années. Le volume se divise en 4 sections chronologiquement distinctes, les années 30, les années 40, les années 50, les années 40 qui sont de loin les plus fécondes, les années 50 et les années 60. Les années 30, l'exil d'Arendt l'a conduit dans un premier temps à Paris, où elle arrive sans papier et sans ressources. On compte pour cette période 10 articles, dont 3 directement écrits en français dans le journal juif. La mère d'Arendt était francophone et Hannah Arendt avait appris cette langue au gymnasium. Faire, pour elle, c'est alors accomplir un travail social auprès de différentes associations juives et notamment au sein de l'Alia des jeunes, en préparant de jeunes adolescents à leur départ en Palestine, c'est-à-dire chez eux, pour reprendre son titre. Des jeunes s'en vont chez eux. Elle-même les accompagna d'ailleurs dans le cadre de ce voyage en 1935, apprenant des rudiments d'hébreu afin de connaître mon peuple, ajoute-t-elle, alors qu'évoquant sa germanité, elle précisait à Günther Gauss : je ne crois pas m'être jamais considérée comme allemande au sens d'appartenance à un peuple et non d'appartenance à un État, si je puis me permettre cette distinction. Dès 1933, de même qu'après la guerre en 1947, dans sa correspondance avec Karl Jaspers, Hannah Arendt marquait en effet ses distances avec le destin politico-historique de l'Allemagne auquel Jaspers prétendait la faire adhérer. Je cite « Je ne sais que trop bien combien la participation juive à ce destin a été tardive et partielle, combien ils sont entrés par hasard dans ce qui était alors une histoire étrangère. » Et c'est sur ce même mot « peuple » qu'elle reviendra lorsqu'elle répliquera l'accusation de Scholem suite à la publication de son livre sur Eichmann, selon lequel elle aurait manqué d'amour pour le peuple juif, « Ahabat Israël ». En dépit de ses dons pour les langues et en dépit du fait qu'elle connaissait le yiddish, Hannah Arendt ne fit toutefois guère de progrès en hébreu, allant même jusqu'à se plaindre dans une lettre à son mari que cette langue, d'après toutes ses expériences peu encourageantes pour l'apprendre, est une catastrophe nationale. Dans cette section, on la voit également prendre parti dans un procès, celui de l'étudiant juif David Frankfurter, qui avait assassiné le 6 février 1936 à Davos l'activiste nazi Wilhelm Gustloff. Constatant qu'il n'y avait pas de question juive, c'est le titre d'un article en Allemagne en 1933, elle entreprend de s'interroger sur le succès qu'ont rencontré en Allemagne, plus que partout ailleurs, les mots d'ordre antisémites dans un très long inédit d'une centaine de pages, non daté, inachevé et intitulé « L'antisémitisme » et qui, une fois remanié, deviendra en 1951 la première partie des origines du totalitarisme. Alors, je ne les passe pas tous en revue. Hein. Vous avez vu, il y a un bandeau qui dit 500 pages d'inédits. Bien évidemment, je ne les ai plus tous en tête. Je cite comme ça quelques titres et quelques problématiques, mais rien de plus. Les années 1940. En 1940, une circulaire du gouverneur de Paris intime l'ordre aux étrangers ennemis, dont Hannah Arendt fait désormais partie, de se regrouper au vélodrome d'hiver. Elle est ensuite internée au camp de Gours, dans les Pyrénées-Orientales, dont elle parvient à s'enfuir au bout de 2 mois. Obtenant un visa pour l'Amérique, elle arrive à New York en mai 1941. Contrairement à certains immigrés, tels par exemple Ernst Bloch, qui refusa de passer à une autre langue, ou à Günther Stern, qui deviendra Günther Anders et qui était son premier mari, qui revendiquait de s'accrocher à ce qu'il appelait son dialecte de province, Hannah Arendt fait preuve d'une extrême bonne volonté. Elle s'immerge dans une famille du Massachusetts et se met immédiatement à apprendre l'anglais, langue dans laquelle elle publiera tous ses grands livres. Elle ne se sentira pourtant jamais complètement à l'aise avec sa langue d'adoption, recourant à ses amis Rose Feitelson et Mary McCarthy pour angliciser ses textes. Reprenant après-guerre sa correspondance avec Jaspers, elle remarque « J'écris dans une langue étrangère. C'est là le problème de l'immigration. » Atteste de ce qu'elle écrivait plutôt « Nolens » que « Volens » en anglais, son journal de pensée, qu'elle tint de 1950 à 1973 et qui n'était pas destiné à être publié. Sur les 1000 pages, 100 seulement sont en effet rédigées en anglais. Elle aurait pu dire, à l'instar du poète Randall Jarrell, auquel elle donna d'ailleurs des leçons d'allemand, « Le pays que j'aime le mieux, c'est l'allemand ». Dans son journal de pensée, elle notait « Bien traduire, c'est transposer la ressemblance ». Et peu satisfaite de ses traducteurs en allemand, elle-même traduisit, ou plutôt réécrivit, 3 de ses propres livres, « The Origins of Totalitarianism », Human Condition et On Revolution. Plusieurs facteurs ont contribué à ce sauvetage, j'emploie à dessein le mot de sauvetage au sens de la langue sauvée de Canetti, ce sauvetage de la langue maternelle, c'est-à-dire de la langue de la philosophie et de la poésie pour elle. Tout d'abord, le fait qu'elle n'a jamais cessé de la pratiquer en privé, avec sa mère d'abord exilée avec elle, ainsi qu'avec son second mari, Heinrich Bücher, sa patrie portative, ainsi qu'elle le nomme. En outre, une fois arrivée aux États-Unis, elle tient, de 1941 à 1945, une rubrique intitulée « C'est votre affaire » dans le journal Aufbau, destiné aux réfugiés juifs de langue allemande, dont la totalité est ici présentée et dans lequel elle ne publia qu'un seul article en anglais. Faire, à cette époque, c'est s'exposer au risque de la vie publique en prenant la parole, car vous l'avez entendu dans l'entretien, la parole est aussi une forme d'action. Hannah Arendt écrit donc en allemand et à chaud en pleine guerre un très grand nombre d'articles dans Aufbau, dont une vingtaine sont ici inédits et qui témoignent notamment de ce qu'elle n'avait pas rompu ses liens avec la France. Témoin, par exemple, sa lettre ouverte à Jules Romain, ou bien « Que se passe-t-il en France ?» ou bien encore « Une parole chrétienne à propos de la question juive », à propos du livre de Maritain « Ransoming the Time », voire « La littérature française en exil », où elle s'interroge sur Bernanos et Yves Simon. Toutefois, la plupart de ces articles sont destinés à mobiliser le peuple juif autour de la création d'une armée juive, combattant sous son propre drapeau, plutôt que sous celui de l'armée du pays dont on est originaire. Son mot d'ordre constant est en effet, quand on est attaqué en tant que juif, c'est en tant que juif qu'on doit se défendre, non en tant que français, anglais ou citoyen du monde. Elle presse le peuple juif de ne plus se considérer comme le sel de la terre, un article inédit, c'est-à-dire de renoncer à la conception erronée de peuple élu en faveur de la loi de la normalité, du devenir un peuple comme les autres. Elle célèbre la résistance des ghettos de Vilna et de Varsovie, elle brosse de manière pathétique la condition des réfugiés dont elle fait partie et qui ont perdu non seulement leur foyer, leur profession, leur statut, et personne ici ne sait qui je suis, comme vous en parlera Marc Répond, mais surtout leur langue maternelle, c'est-à-dire leur réaction naturelle, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de leurs sentiments. Faire, c'est aussi prendre parti contre la politique de Theodor Herzl, qui avait cru naïvement que les antisémites seraient nos meilleurs alliés et qu'un peuple sans terre aurait pu échapper à l'antisémitisme en recherchant une terre sans peuple. Il s'était enfui en Palestine, comme on désire s'enfuir sur la lune, c'est-à-dire en méconnaissant la réalité arabe. Elle souscrit en revanche au statut de paria conscient, brossé par Bernard Lazare, avocat de la famille Dreyfus, un paria qui, au lieu d'accepter sa condition, se rebelle contre elle et se fait le champion de son peuple opprimé, une position qu'elle adopte pour elle-même. On la voit prendre ses distances avec le sionisme, le seul groupe auquel elle ait jamais appartenu de 1933 à 1943, ainsi qu'elle le souligne, et avec lequel elle avait jusqu'ici partagé une plateforme commune, à savoir leur critique de l'assimilation juive et leur insistance sur une solution politique à la question juive. Et on peut alors se demander si Hannah Arendt ne fut qu'une hôte de passage dans le sionisme, comme l'affirme Hans Jonas, ou bien si elle fut cette sioniste distinguée, comme la présentait encore en 1941 Gershom Scholem, avant pourtant de la taxer en 1946 de trotskiste anti-sioniste. Dès 1940, elle émet en effet des réserves à l'égard de l'objectif des sionistes en Palestine. En témoigne, par exemple, sa lettre à Erich Cohn-Bendit concernant la question des minorités, dont aucune législation n'est venue à bout, et dans laquelle elle met en cause l'expérience territoriale de la Palestine, qui, dit-elle, lui paraît de plus en plus problématique. Kurt Blumenfeld, qui s'y était installé, alors qu'Hannah Arendt n'envisagea jamais d'y faire son alia et ne se rendit en Eretz Israël qu'à 5 reprises, lui reprocha d'ailleurs « C'est d'être sans terre qui compte pour toi, pour moi d'avoir un sol où poser les pieds. » Elle note déjà l'obsolescence de la notion de nation, à savoir l'union d'un peuple déterminé et d'un territoire en vertu d'un donné historique autrement dit une solidarité du sol et du sang, et elle écrit « Il se peut qu'advienne très bientôt une époque où l'idée d'appartenance à un territoire soit remplacée par celle d'appartenance à une union de nations, Nationenverband. » Témoigne également de sa prise de distance par rapport au sionisme, son essai « La crise du sionisme », dont une première version avait été rédigée en allemand peu après la conférence extraordinaire qui se tint à l'hôtel Biltmore en mai 1942 et qui a signé pour but au sionisme la création d'un, je cite, « Commonwealth juif libre et démocratique en Palestine après la guerre ». Un an plus tard, elle en publie une seconde version, inédite jusqu'à présent, rédigée en anglais cette fois-ci, dans laquelle elle cite, à titre d'exemple de solution de la question juive, la révolution russe, où nation et État ne s'identifient pas, le gouvernement représentant une fédération de peuples et de nationalités jouissant des mêmes droits, aucun n'étant privilégié, aucun n'étant dominé. Et elle reprend cet exemple d'émancipation, non plus à titre individuel, mais en tant que peuple, dans un autre inédit, le nouveau visage d'un vieux peuple. L'attitude des sionistes se durcit par la suite, et elle reçut une formulation extrémiste lors de la résolution d'Atlantic City, où les sionistes de gauche comme de droite avaient adopté à l'unanimité la revendication d'un Commonwealth juif libre et démocratique, on l'a vu, mais surtout comprenant la totalité de la Palestine sans division ni diminution. Dans un second essai, Réexamen du sionisme, rejeté par la revue Commentary en 1944, au motif qu'il contenait trop d'implications antisémites, ou en tous les cas que c'est ça que le lecteur verrait, Hannah Arendt tire les conséquences de cette résolution. La majorité arabe ne bénéficiant même plus des droits propres à la minorité que lui avait accordé la minorité juive, les Arabes n'auraient manifestement plus d'autre choix que l'émigration volontaire ou le statut de citoyen de seconde classe. Dès 1945, Hannah Arendt parvient à la conclusion que le sionisme, tout en ayant commencé comme un mouvement social révolutionnaire, une tentative sérieuse de fonder un nouvel ordre social, était devenu un mouvement nationaliste et chauvin, une répétition de l'expérience négative des nations européennes. Faire, pour elle, c'est alors collaborer avec Yehuda Magnes pour suggérer des propositions alternatives, même si elle récuse sa proposition d'un État binational intégré dans une fédération arabe, laquelle ne serait, dit-elle, que le masque d'un empire. Reconnaissant l'ébauche de nouvelles structures dans le Commonwealth britannique, dans la mesure où de grandes parties du peuple anglais vivent à l'extérieur du territoire des îles britanniques, l'Angleterre n'est pas un État-nation, Hannah Arendt envisage dans un premier temps l'éventualité d'une incorporation du Proche-Orient au sein d'un nouveau Commonwealth des nations britanniques en vue d'une fédération. Auquel cas, sans exiger un État-nation, les Juifs bénéficieraient d'un statut politique égal à celui de tous les autres peuples du Commonwealth, Juifs et Arabes jouissant des mêmes droits. Elle évoque ensuite l'hypothèse d'une sorte de fédération méditerranéenne, idée à laquelle souscrivait une minorité de sionistes. Mais c'est surtout en ayant présent à l'esprit le système fédéral de l'heureuse Amérique, comme elle dit, et celui de la démocratie participative lors de la brève révolution hongroise de 1956 que Hannah Arendt rêve à long terme d'une structure fédérée au Proche-Orient et dans la région méditerranéenne. Ce rêve ne s'arrête d'ailleurs pas aux portes du Proche-Orient, puisqu'il repose et présuppose à son tour une nouvelle organisation de l'Europe, elle aussi sur la base d'une structure fédérative qui intégrerait le Proche-Orient en son sein. Arendt ne se pensait pas comme anti-sioniste, mais comme une opposante loyale. Je la cite, « Quiconque croit au régime démocratique sait combien une opposition loyale est importante. La politique meurt dès lors qu'il y a unanimité, une unanimité intolérante face à la dissidence. Taxée à diverses reprises de haine de soi, elle réplique « L'autocritique n'est pas la haine de soi. La critique qu'adresse un patriote juif à son propre peuple a pour but de mieux préparer le peuple au combat. » Elle justifie sa critique à l'endroit du peuple juif en vertu de la légitimité que lui confère son engagement passionné en faveur de l'avenir du peuple. Un engagement passionné qui a notamment trouvé son expression dans l'intense activité qu'elle a déployée de 1942 à 1946 auprès de la Commission européenne pour la reconstruction culturelle juive, où elle s'est efforcée de dresser l'inventaire provisoire des institutions culturelles juives et des biens juifs qui existaient avant 1938 en Europe afin de les restituer à leur pays d'origine. Et elle devint même le bras droit de son président, Salo Baron, de 1949 à 1951. La correspondance Hannah Arendt-Gershom Scholem, récemment publiée en Allemagne, atteste l'importance de la contribution d'Arendt à cette entreprise en produisant notamment ses rapports sur le terrain, jusqu'à présent demeurés inédits. C'est dans le cadre de ce travail qu'Hannah Arendt foule d'ailleurs pour la première fois à nouveau le sol allemand en 1949, au cours d'un voyage de 4 mois, au terme desquels elle publie un reportage « Après le nazisme, les conséquences de la domination ». Par-delà l'apparent manque de cœur des Allemands, ou encore le fait que les Allemands lui apparaissent comme des fantômes vivants, elle souligne néanmoins le bonheur de ses retrouvailles avec la langue maternelle. Le fait d'entendre parler allemand dans les rues, cela m'a incroyablement réjoui. Contrairement à Victor Klemperer, qui endura sur place le régime nazi, ou à Günther Anders, qui s'installant à Vienne au terme de 17 années d'exil noté, ses éclats d'obus dans l'innocence de la langue, Hannah Arendt ne semble donc pas avoir perçu les déformations que l'époque nazie a fait subir à la langue allemande. Aussi, lorsque Gauss, dans l'entretien, insiste sur cet amour de la langue, même aux temps les plus amers, elle confirme toujours « Je me disais, que faire ? Ce n'est tout de même pas la langue qui est devenue folle. » Les années 50. Cette partie est de loin la plus brève, puisqu'on ne compte que 3 articles, dont 2 inédits. Un hommage à Yehuda Magnes, la conscience du peuple juif, rabbin réformé aux États-Unis qui émigra en 1922 en Palestine, fondateur de la très réputée Université hébraïque de Jérusalem. Il rompit avec le sionisme après la conférence de l'hôtel Biltmore en 1942, fondant son propre parti, l'Ihoud Unité. Une recension très élogieuse du livre de Léon Poliakov, publié en 1951, Bréviaire de la haine, où elle le crédite d'avoir le premier fait le lien entre les meurtres miséricordieux, c'est-à-dire l'euthanasie ordonnée par Hitler sur les malades mentaux, et l'extermination. De même, loue-t-elle l'objectivité et l'intégrité de, je cite, son compte-rendu concernant les ghettos et le rôle de leur Judenräte, leur conseil juif. Il n'accuse ni n'excuse. Fin de citation. Cette même année, 1951, Hannah Arendt publie son premier grand livre, « The Origins of Totalitarianism », auquel elle travaillait depuis 1945, et qui la révèle au public américain. Elle s'y force d'y répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? Dans son histoire de l'antisémitisme, Léon Poliakov évoque pour sa part brièvement les chapitres suggestifs, mais souvent contestables, qu'elle consacrait à l'affaire Dreyfus, dans laquelle elle voyait une répétition générale du nazisme. 1951 est également l'année où Hannah Arendt prend la citoyenneté américaine après avoir été apatride pendant 18 ans. Sa carrière d'universitaire ne débute qu'à l'âge de 46 ans, mais elle enseigne alors dans les plus prestigieuses universités américaines, la New School for Social Research, Berkeley, Princeton, Chicago, dont elle devient professeure titulaire en 1964, l'année de l'enregistrement de son entretien avec Günter Gauss. Les années 60, on compte 5 articles, dont 3 inédits en français, et sa célèbre réponse à la lettre de Gershom Scholem, traduite ici à partir de l'original allemand. Tous ces articles sont centrés autour de la polémique à l'échelon international qu'avait fait surgir la publication en 1963 de son livre « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal ». Faire ici, comme dans le cas de sa prise de distance par rapport au sionisme, c'est à nouveau dire la vérité telle qu'elle la percevait, si douloureuse fut-elle. L'origine du sous-titre « Banalité du mal », dans lequel Scholem vit un slogan, fait question. Hannah Arendt l'a-t-elle reprise de Joseph Conrad, un auteur dont elle était familière, ou bien serait-ce Heinrich Blücher qui la lui aurait suggéré, quitte ensuite à se le reprocher amèrement. Ce livre déclencha une controverse virulente qui l'incita à revenir à son journal de pensée qu'elle avait délaissé à l'époque où elle travaillait à son rapport. À la première page, en haut à droite du cahier 24, exceptionnellement non daté de la main d'Arendt, mais vraisemblablement de 1963-1964, figure l'intitulé « Vérité et politique », titre d'un futur essai de la crise de la culture, qu'elle annonçait à son amie Mary McCarthy comme une réponse implicite à la longue controverse dont elle faisait l'objet et qui ne concernait pas le livre qu'elle avait écrit, mais l'image, image-making, qui s'y était substituée. À sa demande, Hannah Arendt, qui n'avait pas assisté au procès de Nuremberg, avait été envoyée par le journal Le New Yorker au procès Eichmann qui s'ouvrit à Jérusalem le 11 avril 1961. Elle voulait voir ses assassins en chair et en os, en direct, comme elle dit. Outre le sous-titre de son rapport, 3 thèses choquèrent et continuent de choquer, suscitant des centaines d'articles de par le monde. Premièrement, celle selon laquelle Eichmann, responsable d'avoir envoyé au massacre des millions de Juifs, loin d'être un monstre et un personnage démoniaque, n'était qu'un médiocre clown, un individu banal, ce terme n'étant nullement synonyme pour elle d'ordinaire, commonplace ou de quotidien, alltäglich, mais bien plutôt de bêtise, dummheit, ainsi qu'elle s'en explique dans un entretien inédit avec l'historien Joachim Fest, récemment publié en Allemagne sous le titre Eichmann war von empörender Dummheit. Eichmann était d'une bêtise révoltante, je pense. Deuxième thèse contestée, l'affirmation selon laquelle, si les conseils juifs n'avaient pas coopéré avec les autorités nazies, le nombre de morts juifs aurait été largement inférieur. Troisième thèse, son appréciation de la conduite de ce procès-spectacle dont Ben Gourion avait voulu faire le Nuremberg du peuple juif. On voit Hannah Arendt dénoncer les accusations qu'avait proférées à son encontre le formidable Jacob Robinson, ancien assistant du procureur Bach au procès de Nuremberg et conseiller du procureur Hausner lors du procès de Jérusalem, et recensé par Walter Lacker. À l'une des questions que lui posa Samuel Grafton, auxquelles elle fait allusion sans le nommer dans l'entretien avec Gauss et dont la lettre inédite sous forme de questionnaire à Arendt nous est donnée à lire dans ce volume, « Si vous aviez pu prévoir ceci ou cela, n'auriez-vous pas écrit autrement le livre sur Eichmann ?» Hannah Arendt répondit, et vous en avez entendu une version, « La seule alternative aurait été de garder complètement le silence. Mais à partir du moment où j'écrivais, j'étais tenue de dire la vérité telle que je la percevais. » Eichmann à Jérusalem ne fut traduit en hébreu qu'en l'an 2000, et grâce à des fonds privés, comme le rappelle Edna Brock, une nièce israélienne d'Arendt, directrice de l'ancienne synagogue d'Essen et auteure de la postface des écrits juifs. Depuis lors ont été publiées en Israël la biographie d'Elisabeth Jungbrühl ainsi que les origines du totalitarisme. Deux mots, si on me le permet, mais pas plus, sur l'actualité de ces écrits juifs. C'est un peu grossièrement dit. Le mot de la fin, quoi. Hannah Arendt récusait le rôle de prophète au motif qu'en matière de politique, nous avons uniquement affaire, je la cite, à des avertissements et non à des prophéties. En 1945, elle notait dans un inédit qui s'intitule « Un accord entre les peuples du Proche-Orient » un chez-soi que mon voisin ne reconnaît pas comme tel et qu'il ne respecte pas n'est pas un chez-soi, mais un champ de bataille. Et en mai 1948, alors que la guerre d'indépendance faisait rage, elle lançait cet avertissement clairvoyant. Et même si les Juifs devaient gagner la guerre, les Juifs victorieux vivraient environnés par une population arabe entièrement hostile, enfermée entre des frontières constamment menacées, occupée à leur autodéfense physique au point d'y perdre tous leurs autres intérêts et leurs autres activités. Six guerres. 1948, guerre d'indépendance. 1956, opération Kadesh ou crise de Suez. 1967, guerre des six jours. 1973, guerre du Kippour. 1982, guerre contre le Liban. Deux intifadas, la première en 1989, la seconde en 2000. Et en 2009, l'opération Plomb durci dans la bande de Gaza ont émaillé la brève histoire de l'État d'Israël depuis la proclamation de sa création par David Ben-Gourion le 14 mai 1948. 63 ans plus tard, la reconnaissance d'un État palestinien et non plus seulement d'une autorité palestinienne, si elle a été acquise le 30 octobre dernier devant l'UNESCO, fait encore débat, du moins jusqu'au 11 novembre, au sein des Nations Unies. En 1952, dans son hommage posthume à Yehuda Magnus, Arendt écrivait « Le problème arabe est la seule question politique et morale de la politique israélienne ». Et elle constatait que l'État israélien victorieux n'a pas été capable de conclure un seul traité de paix avec ses voisins arabes. C'est chose faite avec l'Égypte depuis 1979 et avec la Jordanie depuis 1994, en dépit de la fragilité de ces accords. Je vous remercie et pardon d'avoir été un peu longue.